Lizzy présente Ce genre de petites choses de Claire Keegan, lu par Nicolas Lormeau de la Comédie Française. Cette histoire est dédiée aux femmes et aux enfants qui ont subi la claustration dans les blanchisseries de Magdalen en Irlande. Et pour Mary McKay, dont les enseignements ont eu une importance inestimable pour des quantités de gens. Chapitre 1. En octobre, il y eut des arbres jaunes. Puis les pendules reculèrent d'une heure et les vents de novembre arrivèrent et soufflèrent, perpétuels, et dépouillèrent les arbres. Dans la ville de New Ross, les cheminées crachaient de la fumée qui retombait et flottait en mèches échevelées, étirées, avant de se dissiper le long des quais, et bientôt la rivière, aussi sombre que de la bière brune, se gonfla de pluie. Les gens, pour la plupart, enduraient les intempéries avec contrariété. Les commerçants et les artisans, les hommes et les femmes au bureau de poste et dans la file d'attente du chômage, sur le marché aux bestiaux, à la cafétéria et au supermarché, dans la salle de bingo, dans les pubs, à la friterie, commentaient tous, à leur manière, le froid et la quantité de pluie qui était tombée, demandant ce que ça signifiait et s'il pouvait y avoir un présage là-dedans, car qui pouvait croire que c'était, pour la énième fois, une journée glaciale? Les enfants relevaient leurs capuches avant de partir pour l'école, tandis que leur mère, si habituée maintenant à baisser la tête et à se précipiter vers la corde à linge ou osant à peine étendre la moindre lessive dehors, avait peu d'espoir de réussir à faire sécher ne serait-ce qu'une chemise avant le soir. Puis la nuit s'installait et le gel reprenait, et les lames du froid se glissaient sous les portes et coupaient les genoux des rares qui s'agenouillaient encore pour dire le chapelet. Bill Furlong, propriétaire du dépôt de bois et de charbon, se frotta les mains, disant que, si les choses continuaient comme cela, ils auraient bientôt besoin d'un nouveau train de pneus pour la camionnette. « Elle est sur la route la journée entière, dit-il. Nous ne tarderons pas à rouler sur les jantes. » Et c'était vrai. Dès qu'un client sortait du dépôt, un autre entrait immédiatement, ou le téléphone sonnait pour la commande suivante. Presque tous disant qu'ils voulaient la livraison sur le champ, ou sous peu, que la semaine d'après ne conviendrait pas. Furlong vendait du charbon, de la tourbe, de l'anthracite, du poussier et des bûches. Il fournissait ses combustibles au poids, à raison de 50 ou de 100 kilos, d'une tonne ou d'une pleine camionnette. Il vendait aussi des paquets de briquettes et de petits bois, ainsi que des bouteilles de gaz. Le charbon était le travail le plus salissant et, en hiver, il fallait s'approvisionner tous les mois sur les quais. Deux journées complètes étaient nécessaires aux hommes pour aller le chercher, le transporter, le trier et le peser de retour au dépôt. Pendant ce temps, d'insolites bateliers polonais et russes parcouraient la ville dans leurs bonnets de fourrure et leurs longs manteaux boutonnés sans presque parler un mot d'anglais. Durant les périodes chargées comme celle-ci, Furlong faisait la majorité des livraisons lui-même et laissait les ouvriers du dépôt ensacher les commandes suivantes, couper et fendre les cargaisons d'arbres tombés que les fermiers apportaient. Tout au long de la matinée, le bruit des scies et des pelles assidues retentissait. Mais lorsque l'Angélus sonnait, à midi, les hommes déposaient leurs outils, lavaient leurs mains noircies et allaient chez Kehoe, où ils trouvaient des repas chauds avec de la soupe et du fish and chips le vendredi. « Un sac vide ne tient pas droit », aimait à dire Mrs. Kehoe, debout derrière son présentoir neuf, servant les légumes et la purée à l'aide de ses longues cuillères en métal. Avec plaisir, les hommes s'asseyaient pour se réchauffer et apaiser leur faim avant de fumer une cigarette et de retourner affronter le froid.